ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. On ouvre la saison. Je suis très, très, très heureuse de l'avoir avec nous en studio parce qu'on s'est parlé, mais bon, au téléphone. Et puis, vous savez ce que c'est hein, d'avoir quelqu'un pendant une heure. C'est un privilège que j'ai envie de vous faire partager. Il est là, c'est Luca Patuelli et Lazy Legs, son nom de danseur, d'artiste. Bienvenue.
Merci beaucoup. Ça va alors, bien?
Ça va bien et vous?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, Luca, un être exceptionnel, un être qui a un parcours incroyable, un être qui continue toujours à relever des défis sans arrêt, qui a un agenda. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez en Angleterre pour
oui,
un concours.
Exactement, ouais, j'étais en Angleterre pour une tournée avec mon crew Ill Abilities.
Alors, parce que breakdance avant, maintenant danseur, ouais. on peut dire aussi président de sa propre école de danse aussi.
Co-fondateur.
Co-fondateur ouais. Avec votre femme.
Avec ma femme, Melissa Emblin, et notre partenaire, Marie-Hélène Patnaud.
Et qui donne des conférences aussi à travers les écoles et tout ça.
Oui.
ça n'arrête pas.
Ça n'arrête jamais.
Est-ce que vous étiez toujours actif comme ça?
Je pense que oui. Quand j'étais jeune, j'étais toujours très actif. Alors, toutes les activités que j'ai vu mes amis faire, je voulais toujours répéter ça. Alors, si mes amis étaient dans la piscine, je nageais avec eux. Je faisais les courses, je faisais partie de l'équipe de natation, aussi l'équipe de plongeon. Je faisais du escalade. Toutes les choses que j'ai vu mes amis faire, je voulais vraiment, vraiment... Je me suis jamais arrêté. Et j'ai toujours fait les choses dans ma façon. Mm-hmm. Alors, même si je ne pouvais pas aller à la même vitesse que mes amis, au moins, je les suivais. Mm-hmm. Et aussi, dans le sens de les affaires, j'ai toujours eu un peu plus, je pense, business mentality
avec
moi. J'étais toujours un petit homme d'affaires.
C'est vrai?
Oui, parce que quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de vidéo-jeux. À cause de toutes mes chirurgies, je passais beaucoup de temps à la maison. Alors, j'avais tout le système, le PlayStation, le Nintendo. J'avais plein de jeux. Les personnes me donnaient des jeux comme des cadeaux et tout ça. Mais une fois que j'ai arrêté la réhabilitation et je pouvais sortir et jouer avec mes amis, je ne jouais jamais mes vidéo-jeux. Alors, je me suis dit que peut-être que ce que je pourrais faire, c'est louer mes jeux. Je fais comme un petit blockbuster. Et j'ai loué les jeux moins chers que Blockbuster et toutes les autres compagnies dans notre petit village.
C'est pas vrai. Ouais. Donc, d'après combien le profit c'était?
C'était pas beaucoup de profit.
Comme mais quand même, d'y penser.
Oui, c'était comme tu disais, 10 dollars par semaine ou quelque chose comme ça. Ça payait pour les bonbons.
Mais c'est
semaine.
Brillant, ça.
Oui.
C'est très brillant, ça. C'est... Donc, le businessman était là. Là.
Oui, ça commençait comme je pense que j'avais 9 ans. Puis après, quand j'étais dans mon école secondaire, j'avais, je sais pas comment dire en français, un cooler.
C'est-à-dire
la boîte pour tenir
la boîte à
les
lunch.
Choses.
Ou... La boîte... Ah non, non.
C'est pour tenir les choses froides. On les amène
tout
pour
à
les
fait.
Pique-niques.
Oui, oui, oui. Le high smoothie, moi aussi j'ai juste le mot en anglais. Là,
ouais.
Mais le refroidisseur finalement.
Oui, un petit ouais. refroidisseur, mais c'est
voilà.
en plastique. Et j'ai attaché mes pneus de skateboard, mes skateboard wheels sur le cooler. Et je le traînais avec moi et j'ai rempli le cooler plein de bonbons et je vendais des bonbons dans mon école secondaire. Et entre les cours, j'étais là juste avant les bonbons et je les vendais moins cher que qu'est-ce que l'école vendait. Et je faisais beaucoup de profit. et ça, c'était une chose que j'ai réussi pour 3 semaines. Et après, éventuellement, l'administration et les professeurs étaient un peu fâchés parce que j'arrivais en retard.
Ah bon, parce que ça prenait plus sa place sur les études, finalement.
Oui, exact, ouais.
Mais qu'est-ce qu'était le plaisir d'avoir fait ces trouvailles-là, ou d'avoir de l'argent, les deux, ou de déjouer un petit peu le système scolaire, le système en place, c'était quoi?
C'était un peu de tout, je pense. Je me décris un peu comme un Bart Simpson, tu sais, comme le sens comme un bad boy, mais aussi un good boy, dans le sens comme je fais des choses... toujours à la limite, jamais pour faire mal à les autres, mais aussi à voir combien loin je peux aller. C'est comme, j'ai toujours joué à, comme ça, un peu mischievous.
Est-ce que
ça.
Le bad boy, il y avait des mauvaises notes ou il y avait des... Parce que ça, c'est un bad boy avec des bonnes notes, j'imagine, non?
Oui,
qui se permettait d'avoir oui et non?
Ça dépendait des cours et ça dépendait des professeurs, parce que des fois, je devais être très gentil aux professeurs. Et j'ai souri. Et après, les professeurs me donnaient des bonnes notes. mais ça dépendait. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les mathématiques. Ça, c'était toujours quelque chose que j'ai... Juste en général, dans les cours, c'était pas ma force. Mais en gymnase, lunchtime, c'était A+, toujours.
ça se rattrapait. Alors justement, on va y aller. Comment vous vous sentez dans votre vie en ce moment, dans votre... Là, on est au présent.
Oui.
Là où vous êtes rendu.
C'est intéressant. Je me lève tous les matins et je regarde ma famille ça et je me dis... je suis content. Je suis extrêmement content avec où on est dans notre vie. Je viens de me marier en octobre dernier.
Oui.
On vient de déménager dans un loft qu'on a acheté. Et c'est toutes des choses, des réalités qui commencent à arriver dans notre vie qu'on n'a pas pensé que ça allait arriver aussitôt. Et c'est vraiment cool juste à vivre ce moment-là et vivre ça avec quelqu'un que j'adore. Mélissa est comme mon meilleur ami, alors on se lève tous les jours. C'est comme avoir un sleepover avec tes amis tous les jours. Ça, c'est la façon
Mais c'est quand même incroyable, cette histoire, parce que vous avez voulu vous marier, puis vous vous êtes dit, bon, j'ai pas trop d'argent pour ce mariage-là. Puis je pense que vous avez eu un don. Qu'est-ce qui est arrivé
En fait, comme on a fait le mariage et on n'a pas eu l'argent pour faire un voyage de noces. Et aussi à cause de notre programme de danse qui arrivait, parce qu'on se marie. Et deux jours plus tard, on a retourné au travail, donné des cours et faire des spectacles et tout ça. Alors, on ne s'est pas vraiment donné le temps pour faire une vacance. Et en décembre, le 16 décembre 2013, j'ai passé sur l'émission Ellen DeGeneres. Et oui. J'ai fait une performance et elle a entendu de mon histoire et qu'elle a dit « Tu n'as pas fait un voyage de noces ici et je vous donne un cadeau de 10 000 $ pour... prendre ton voyage de noces. Wow. Alors ça c'était...
Alors vous êtes parti où pour le voyage?
On allait au Jamaïque.
Ah,
oui.
Bien.
Et on allait dans une resort. Ça s'appelle Couples à Negril. Et c'était vraiment cool parce que c'était seulement pour les couples. Alors c'était soit les mariés ou copines et tout ça. Et alors il n'y avait pas des enfants. Et n'importe où tu étais dans le resort, tu te sentais seul avec... la personne qui tu partageais ça avec. Alors ça, c'était vraiment beau.
Alors, et comment vous êtes rencontrés?
En fait, Mélissa, elle est ergothérapeute de base et elle était invitée à une conférence à McGill où j'ai donné une conférence pour les étudiants et elle recevait toujours les courriels, même si elle n'était plus étudiante. Mais elle a décidé de venir me voir et, à la conférence et c'était un peu coup de foudre, où elle a resté jusqu'à la fin du spectacle pour venir me parler.
Wow.
Et on se parlait, je l'avais invitée à une compétition de danse le lendemain. Elle est venue et à ce soir-là, c'était un peu comme... on ne s'est jamais laissé la main.
Mais c'est magnifique. Alors là, on peut dire que vous êtes à l'apogée de votre rêve, que ça n'a évidemment pas été facile parce qu'on parle de... 16 interventions chirurgicales, ça c'était à quel âge toutes ces interventions?
Oui, alors en grandissant, j'ai eu un total de 16 chirurgies. La première c'était quand j'avais 7 mois et le dernier c'était quand j'avais 17 ans. Alors quasiment chaque année durant mes années d'école, il y avait toujours une chirurgie et j'ai manqué beaucoup d'école. J'ai dû prendre du, je ne sais pas comment dire en français, homeschooling, l'école à la maison.
L'école à la maison,
ouais,
tout à fait.
École à la maison. Alors, c'était des moments difficiles parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans l'école, le drama, le gossip, les filles, toutes ces choses-là.
Oui, c'est ça.
Je trouve que j'ai manqué des morceaux de ma adolescence comparé à certains de mes amis.
Mm-hmm.
Mais en même temps, je trouve que durant ce temps-là, j'ai maturé dans des autres endroits où mes amis n'ont pas encore maturé, en grandissant.
Mm-hmm.
Alors, c'était un peu comme peut-être ça enlevait quelque chose, mais aussi j'ai appris quelque chose d'autre.
La maladie, faudrait peut-être la décrire.
Oui.
Est-ce que vos parents l'ont su à votre naissance? Comment ça a apparu de savoir exactement ce que vous aviez?
En fait, j'étais né avec l'arthrorépose.
Mm-hmm.
L'arthrorépose, c'est une condition qui affecte les jointures et les os du corps. C'est l'atrophie dans les muscles. Et pour toutes les personnes qui ont l'arthrorépose, ça peut les affecter dans des arrières du corps complètement différents.
Mm-hmm.
Pour moi, la plupart du temps, ça m'affecte dans mes jambes et maintenant aussi dans mes épaules. Quand j'étais né avec cette condition, quand j'étais né, les docteurs ne savaient pas exactement c'était quoi ma vraie maladie.
C'est ça que j'essayais de savoir quand est-ce. C'est pas évident, là, à votre naissance, je crois. Hein.
Non, c'était pas évident. J'ai lu. Oui. Ça, c'est la raison pourquoi j'ai eu aussi tant de chirurgies aussi, okay. Parce que c'était beaucoup de trial and error. Il y avait toujours la suspicion.
Suspicion
que c'était l'arthrorépose, mais il y avait des similarités à la spina bifida et aussi similarités au polio. Alors, les docteurs, ils essayaient toujours des nouvelles choses pour dire, ah, peut-être si c'est le polio, c'est ça, peut-être c'est ça. Et à 13 ans, j'ai eu la chirurgie de la scoliose. La scoliose, c'est la courbature de la colonne vertébrale. Et en fait, quand le docteur a touché ma colonne vertébrale, il a réalisé que mes os étaient un peu plus faibles. Et c'est là qu'il a dit immédiatement, non, c'est l'arthrorépose. C'est sûr que c'est l'arthrorépose.
Okay. Donc, c'est quand même, ça a pris un bon bout de temps avant de savoir de mettre un nom sur ce que vous aviez. Quand même, c'est quand même pas mal d'années.
Oui. J'apprends tous les jours c'est quoi vraiment l'arthrorépose parce que je rencontre deux autres mondes.
Et
eux aussi, ils ont réalisé une similarité aussi parce que il y a pas beaucoup de recherche dans l'arthrorépose
là-dessus. Alors on va écouter une chanson que vous avez choisie, d'ailleurs vous dansez là-dessus.
Ouais.
James Brown,
yes.
Superbad. Qu'est-ce que ça vous rappelle, vous, justement, cette chanson-là? Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi vous la voulez aujourd'hui?
Premièrement, James Brown, c'est un de mes musiciens préférés au monde. Et deuxièmement, la chanson Superbad, c'était d'écrire à moi. Quelqu'un dit, James Brown, c'est le premier B-boy. Et si tu écoutes les mots, il dit, I've got a move that's gonna make you wanna shout. I've got a move that's gonna... Il parle d'un mouvement. Et durant ce temps-là, quand il performait cette chanson, il se mettait au sol et il faisait des mouvements avec les pieds, avec ses jambes. Et c'est des mouvements que des B-boys, à ce jour, ils continuaient à faire.
Et vous avez dansé, vous l'avez pris pour So You Can Dance aussi.
Vous l'avez choisi pour ça. Oui, c'est toujours une de mes chansons que j'utilise dans mes solos. Parce que c'est quelque chose qui
est... Très significatif, donc.
Les jeunes peuvent aimer James Brown, mais aussi les personnes qui... connaît James Brown, ils vont adorer ça aussi.
Est-ce qu'il vous ressemble un peu, James Brown?
Non,
dans sa façon d'être? Dans son attitude? Ou est-ce qu'il vous... Parce qu'il...
Oui,
vous
non.
Vous voulez dire un peu dans une attitude comme le bad boy que vous disiez tout à l'heure?
Il est évidemment un bad boy, mais je dirais... il est un peu plus fou que moi, peut-être. mais il est incroyable. Il est un maître en son travail.
On l'écoute.
Oui.
Watch me, I got it. Hey, I got something that makes me want to shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Now I gotta move. That tells me what to do. Sometimes it is. Now I gotta move. That tells me what to do. Sometimes I feel so nice. I wanna try myself a few.
I don't need no one else. Sometimes I feel so nice, good God. I jump back, I wanna kiss myself. I've got soul, and I'm super bad. Hey, I said I'm super bad. Come on!
Passion comme vous, finalement.
Oui. Lucas.
C'est vrai, hein, cette passion, cette énergie, cette envie de foncer. Justement, le chemin que vous avez parcouru, cette passion pour la danse, parce que, bon, on a parlé de beaucoup de sport, de votre enfance, mais il y avait comme deux Lucas. Il y avait celui qui jouait avec des jeux, qui était seul. Puis, j'ai l'impression qu'il y avait Lucas qui allait, justement, faire du breakdance avec des gens. Est-ce que c'est ça qui vous a permis de sortir de votre solitude, comment aller jouer dehors, comment ça, quel chemin vous avez parcouru?
En fait, quand j'étais jeune, j'étais toujours actif dans le sens que je jouais seul quand j'avais mes chirurgies, mais une fois que j'avais une minute de sortir et faire des nouveaux amis, j'ai toujours essayé. J'étais toujours très social, tu sais, en grandissant. Je faisais du skateboard avant la danse. Pour moi, le skateboard, c'était mon échappe. Mm-hmm. Et je faisais du skateboard sur mes genoux. Et j'avais mes amis, comme c'était mes voisins, juste en face de chez nous. Ils faisaient du skateboard aussi. Alors, on avait un club j'ai un petit, like, je sais pas, une équipe qu'on avait créée ensemble où on faisait du skateboard après l'école tous les jours. Et après, quand j'ai découvert la danse, c'était un peu la même chose. Mais je trouve qu'est-ce que la danse m'a donné, ça m'a donné la confiance de me laisser sentir plus commode dans mon corps. Parce qu'on doit utiliser notre corps pour danser. Et tu sais, on met notre corps partout, le sol, on doit toucher, il fait chaud, il fait froid. Y a plein des émotions qui sortent quand on commence à danser. Ou avant avec le skateboard ou faire les autres activités, je ne sentais pas avant. Et maintenant...
C'est intéressant. Donc, il y avait toutes ces émotions-là qui n'étaient pas là, toutes ces sensations-là qui n'étaient pas là avant.
Exactement. Et une fois que je commençais à me sentir plus commode avec mon corps, c'est là où ma confiance a commencé à grandir beaucoup plus, tu sais, dans le sens... j'ai sorti toujours en public... j'étais jamais timide à cause de ça, mais j'étais timide peut-être à parler avec des personnes que je connaissais pas. Alors, une fois que je commençais à sentir plus commode dans mon corps, ça me dérangeait pas à demander des directions à quelqu'un ou demander à commencer une conversation avec des personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai communiqué aussi avec mon corps. Alors, si jamais je me sentais fâché pour une raison, soit ça peut être l'école, trop des examens ou les filles qui ne répondaient pas à mes appels ou quelque chose comme ça, je pouvais mettre cette énergie sur la piste de danse et j'ai communiqué avec mon corps.
Mais communiquer avec... Il faut un moment déclencheur. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur de voir, je ne sais pas moi, des vidéos de Michael Jackson ou de voir... Est-ce qu'il y a eu une espèce de flash? Parce que de là à le faire, de dire, OK, là, j'aime la danse, je regarde ces gens-là faire, je vais le faire. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans votre vie?
En fait, quand j'ai eu une chirurgie sur mes genoux et je ne pouvais plus faire le skateboard, j'ai essayé de trouver une nouvelle échappe. Et c'est là où mon ami m'a introduit au breakdance. Il m'a montré un mouvement juste en classe comme ça. Et là, c'était, je dirais, c'était mon moment déclencheur parce qu'il m'a montré que c'était possible. Et
il vous a dit, vas-y.
Quasiment oui.
C'est ça?
Il a dit, je pense que tu seras bon à ça. Tu as des bras qui sont forts. Tu peux t'adapter et tu peux faire des mouvements que nous, on ne pourrait pas faire. Et il m'a envoyé à une compétition pour aller juste à voir, pour assister à cette compétition. Et je suis allé et je suis tombé en amour avec la culture du hip-hop et cette danse, parce que c'était vraiment un partage. Et si tu regardes tous les b-boys, les breakdancers, b-boys, b-girls, quand eux, ils dansent, tout le monde a une personnalité complètement différente.
Ouais.
Et tout le monde, ils ont des mouvements complètement différents. Tu ne dois pas répéter les mouvements comme la personne d'autre. Et je pense, voir ça, ça m'a donné la confiance à dire, oui, je suis capable de faire ça. Même si je ne peux pas faire le même mouvement que la personne à côté de moi, je peux faire des autres mouvements que cette personne à côté de moi ne peut pas faire. Et ça, c'est qu'est-ce que ça crée, une énergie spéciale. Parce que on s'encourage. Alors, c'est vous voulez danser, tu sais, et vous rentrez dans un cercle de danse, vous allez ramener votre énergie, votre expérience, votre chimie dans et ça va créer une énergie spéciale où ça va me donner l'envie de rentrer danser après vous, tu sais, comme c'est,
mais il y a ça, pas ça. Eu de questionnement de se dire je peux pas parce que j'ai un handicap. Il y a jamais eu de moments d'angoisse? Ça a toujours été OK, j'y vais, je m'en fous. Il n'y a pas eu de ce questionnement, parce que tout à l'heure vous disiez j'avais du mal à parler avec les gens. Alors je me dis, parler, danser, est-ce qu'il y a eu? Ou alors c'est allé complètement, je m'en fous, j'y vais, je fonce, peu importe, je vais dans ma passion, dans ma nouvelle passion.
Je pense que c'était immédiatement comme je m'en fous, dans le sens que moi, je suis italien, je suis né en juillet, je suis un show-off. Ça, c'est naturel, ça fait partie de mon sang. Et alors, j'ai beaucoup aimé le défi de créer des mouvements et chaque jour d'essayer de dépasser. Si aujourd'hui, je vais tourner une fois, demain, je vais tourner deux fois. Si aujourd'hui, je tiens mon pause pour 10 secondes, demain, je vais tenir pour 11 secondes. J'ai beaucoup aimé ça. Et immédiatement, qu'est-ce que j'aimais, c'était aussi le défi entre les autres personnes. Alors, si la personne côté de moi va tourner deux fois, je vais essayer de tourner trois fois.
L'espèce de compétition, là.
Oui, chose que j'ai... J'étais toujours un peu... Peut-être le fait que j'ai un handicap, ça m'a donné... J'ai toujours dû me prouver aux gens.
Ouais.
Et j'ai toujours dû dire, oui, je suis capable de faire ça comme toi, ou peut-être un peu différent, mais I do it my own way. C'est comme... Alors, à cause de ça, je pense que ça, c'est la raison pourquoi je me suis foncé 100% dans la danse. Et je dis... I'm going in all out, un peu.
And I love it. I'm going in, but I love it.
Yes, exactly.
Ah, c'est vous aviez trouvé votre passion. J'aimerais bien qu'on parle de votre enfance. Vous avez habité ici.
Oui.
Je
suis né ici, mais j'ai grandi dans les États-Unis.
C'est ça, aux États-Unis. Où est-ce que c'était, aux États-Unis?
C'est Bethesda, Maryland. C'est juste à côté de Washington, D.C.
Washington, OK.
Ouais.
Mais, et de vos parents? Parce que vous avez des parents extraordinaires.
Oui.
des parents qui... qui vous, on en veut tous des comme ça, qui vous ont toujours, toujours encouragé. Ils vous ont jamais, à moins que je me trompe ou j'ai rien lu là-dessus, mais ils vous ont toujours dit, bah, vas-y, fonce, t'es capable, jamais à s'apitoyer. Comment c'était? C'est fantastique de vivre une enfance comme ça.
Mes parents, ils ont été les plus encourageants personnes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. N'importe quelle activité je voulais faire, mes parents, ils ont été toujours, oui, OK, on va trouver une solution. En fait, quand ils étaient jeunes, qu'est-ce que mes parents, ils m'ont toujours dit, c'était que quand, en grandissant, eux, ils voulaient faire des activités, ils n'ont jamais laissé mon handicap les empêcher à faire les activités qu'eux, ils voulaient faire. Alors, c'est eux, ils voulaient faire du ski. Ils ont dit, OK, on va amener Luca avec nous, on va trouver une façon comment il va faire du ski avec nous. Ça va pas être, ils n'ont pas dit, ah, on ne peut pas faire du ski parce que Luca ne peut pas faire du ski. C'était un peu, okay. Oui, on va faire du ski et on va trouver une solution. Même chose avec la plage, aller dans l'eau et dans les piscines. C'était comme, quand eux, ils voulaient faire des choses, eux, ils m'amenaient et on trouvait toujours des solutions. Et soit on doit s'adapter ou si ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, mais au moins on a essayé. Et ça, c'était le motto. Mes parents, ils m'ont toujours dit, on va essayer, on va essayer, on va essayer, toujours.
Alors, le pire que vous pouvez recevoir, c'est un non.
Exactement.
C'est ça.
Et ça, c'est qu'est-ce que je pense que mes parents, ils m'ont appris. Et ça, c'est... ou peut-être l'ambition que j'ai maintenant, c'est grâce à eux, grâce à cette mentalité, à toujours essayer, ne jamais dire « oui, il a un handicap, alors il ne peut pas faire ça ». Il dit « oui, il a un handicap, on va trouver une solution voilà. si on le trouve
il
pas ».
Il va pouvoir le faire.
Oui, il va pouvoir le faire, il va le faire dans sa façon. En fait, quand je faisais du ski, à 3 ans, mes parents m'amenaient en une montagne de ski. Je ne me rappelle pas de ça, mais ça, c'est l'histoire qui me répète toujours. C'est que je ne pouvais pas me tenir debout sur des skis, mais je mettais mes fesses en arrière des skis et c'était comme j'étais assis sur les skis. Et mes parents, ils m'ont dit que j'avais créé genre un style dans les montagnes où tous les autres jeunes me copiaient et on allait dans les pistes comme ça. Alors, c'est un peu... ça, ma mentalité, dans le sens
à
dire que... Et ça, c'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est qu'on va faire des choses différentes et éventuellement, on va être reconnu à cause de ça.
On fait une petite pause, on revient.
Ouais.
Alors, Luca, donc des parents extraordinaires, des parents qui vous ont montré le chemin, mais aussi donné une grande confiance en vous.
Oui, en fait, comme mes parents, ils étaient toujours là pour moi, dans le sens que je pense qu'une chose comparée à mon frère, ou comparée à des adolescents qui étaient à l'école tout le temps, moi, j'étais à la maison. Tout le temps. Et mon père travaillait de la maison. Ma mère était à la maison toujours. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents. Mm-hmm. Le temps que normalement, je serais à l'école. Alors, je pouvais rien cacher de mes parents, en fait. C'est comme... Et en même temps, je ne voulais pas cacher rien de mes parents. Alors, je pense qu'on avait une confiance entre nous-mêmes où je pouvais partager tout. Et je pense que ça m'a donné la confiance en moi pour sortir.
Aller plus loin.
Aller plus loin, ouais.
Alors, aller plus loin, on va en parler. Donc, on peut dire que c'est... Est-ce que si je dis 2000, que le danseur naît, est-ce que c'est à peu près ces
2002,
années-là?
2002. Oui, en fait, dans l'année 2000, j'étais introduit dans la danse.
Oui, c'est ça.
J'ai eu une chirurgie et après, j'ai cassé ma jambe en 2002. Et je suis déménagé ici à Montréal en 2002. Et pour moi, j'ai dit que ma carrière de danse a commencé ici à Montréal.
Donc, en 2002.
Oui. Ouais.
Et puis, plusieurs envies, comme si ce n'était pas assez. Là, vous commencez à danser, à apprendre un nouveau métier. Et là, les concours. Alors, Comment ça commence? Puis les télévisions américaines, on a parlé d'Hélène, mais alors les concours, comment vous êtes dans le salon? Vous dites, ça y est, j'y vais. Comment ça, cette belle aventure-là a débuté? Comment?
En fait, comme je me suis mis... Alors, en 2002, je suis déménagé le 15 juillet 2002 ici à Montréal.
Mm-hmm.
Et mon premier mois, je ne connaissais aucune personne à Montréal et je n'avais pas des amis. Et je me suis dit, la façon plus facile de créer une culture et avoir des amis comme j'avais à Washington, c'était de recommencer à danser. Parce que il y a 6 mois avant ça, j'avais cassé ma jambe. Alors, je n'ai pas dansé quand je suis retourné à Montréal pour vivre à Montréal. Et j'avais entendu d'une compétition de danse en un mois après déménager à Montréal, durant le mois d'août. Et je me suis dit, OK, je vais essayer d'aller et je vais voir si je peux danser encore. Et ce jour-là, j'ai compétitionné, je me suis inscrit dans la compétition et je suis arrivé en 4e position. J'avais battu 2 danseurs et je suis arrivé en finale.
So you think you can dance?
On n'est pas rendu.
Ok, donc ça c'est la première compétition.
Oui, première compétition, okay. C'était quelque chose juste montréalais, petit, quelque chose comme ça. Et là, je commençais à grandir. J'ai fait des tournées un peu partout, à faire des compétitions, juste de underground competitions pour le breakdance, comme c'était...
Parce que Lazy Legs était déjà commencé, le nom était déjà donné.
Lazy Legs était donné à Washington.
OK.
C'était mes amis de l'école secondaire qui m'ont donné ça.
OK.
Et alors, je suis venu ici à Montréal comme Lazy Legs.
Parfait.
Je commençais à rentrer dans des compétitions à Montréal, à Toronto, Ottawa, New York. J'ai retourné à Washington pour faire des compétitions. Je suis allé à LA faire des compétitions et je commençais à gagner ces compétitions-là. Je suis allé en France, en Italie. Je commençais à faire mon nom. Et après, je commençais à être appelé comme un juge pour les compétitions. Je commençais à faire des tournées avec ça. Et en 2010, j'avais mon ami qui allait faire So You Think You Can Dance.
Mm-hmm.
Il m'a invité avec lui à venir juste à lui encourager. Et j'ai décidé à me mettre dans cette émission aussi avec lui. Et moi, j'avais aucune attente d'aller aussi loin que je suis arrivé. En fait, je ne sais pas si je m'explique très bien, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la façon que la télévision marche, ils ont une façon de comment ils veulent utiliser ton histoire. Et ce n'est pas nécessairement le meilleur danseur qui va à gagner la compétition. C'est le danseur qui a la meilleure visibilité pour la télévision. Et dans mon opinion, je me suis dit qu'il n'y a aucune façon que je vais passer le premier round, mais je vais aller là pour faire un peu d'essai. Tu sais, je vais juste voir.
Autrement dit, il n'y avait pas vraiment d'attente de dire « je vais terminer en tant de position ». C'était « je participe, je vais jusqu'à là », mais il n'y avait pas d'attente à ce niveau-là.
Exactement, il n'y avait aucune attente. Et après, après mon audition, les juges disent « OK, bienvenue, tu vas aller à Toronto ». Et je suis comme « Ah, OK, c'est sérieux maintenant ». Et j'y vais à Toronto. J'ai passé la première round, qui mm-hmm. c'était le hip-hop. Le deuxième round, c'était Broadway Musical. Et moi, j'ai dit à tout le monde que je le passais. Malheureusement, les juges ne m'ont pas laissé aller au troisième round parce que le troisième, c'était... la danse à deux, oui, ouais. C'est la danse en couple. Et les juges n'avaient aucune idée comment me intégrer dans la compétition. Mais ils n'ont jamais dit que mon entrée de le Broadway Musical n'était pas assez bonne. Alors moi, j'ai dit à tout le monde que j'ai passé le round, mais ils ne m'ont pas laissé continuer parce qu'ils n'avaient aucune idée de quoi faire avec moi.
Mais j'ai vu quelques extraits. Alors, les juges étaient complètement... Je pense que les gens pleuraient.
Oui,
c'était
moi
complètement...
aussi, je
pleurais. Mais oui, c'est ça. Mais c'était complètement déchirant. Quelle était l'émotion ressentie? Parce qu'il y a aussi une injustice dans cette chose-là. C'est qu'ils vous disent « Oh non, on ne va pas à la dernière étape, danse à deux ». Et là, ensuite, vous gagnez votre vie, vous partez en France, je pense, puis vous allez dans un spectacle, vous allez danser avec une autre personne.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là.
Oui.
Alors, mais comment vous vous êtes senti
immédiatement, à cause de l'émotion et tout le monde qui criait et pleurait et tout ça, j'ai même pas pensé. Alors, je suis sorti avec une grande sourire parce que j'étais content juste d'avoir l'opportunité d'être dans cette émission-là, d'avoir la chance. Ils ont vraiment fait un bon travail de m'intégrer le plus possible. Après, quand je suis retourné à Montréal, je me suis dit, mais tu sais quoi, ils devaient me donner la chance, au moins essayer, même si je gagnais pas, ce sera bon de au moins montrer que j'essaie. Ouais. Parce que j'avais même des filles dans l'émission qui m'ont dit, hey Lucas, si tu passes, j'aimerais collaborer avec toi et tout ça. Parce qu'ils étaient intéressés. Et c'est sûr qu'il y a des limitations parce que je ne peux pas faire des lifts comme je ne peux pas lever les femmes et tout ça. Mais
il y a plein de choses qui peuvent se faire à deux.
Exactement.
Sans s'enlever les gens, finalement.
Oui, exactement. Ouais. Et l'année dernière, l'année suivante, So You Think You Can Dance, 2011-2012, j'ai fait une tournée mondiale avec la compagnie de danse Montalvo Hervieux, qui sont basés dans le Théâtre National de Paris. Et toutes les deux semaines de septembre.
Oui, c'est ça. Ils vous ont appelé et ils ont demandé. Je pense que c'était quelqu'un que vous avez remplacé.
Oui, j'ai remplacé une danseur. Et j'avais fait une tournée de 22 villes aux 22 spectacles avec cette compagnie-là. Et il y avait un duo avec une fille.
C'est incroyable.
Alors, on a montré que, oui, on est capable de faire une duette, la danse en couple.
Alors, là, vous n'aviez pas envie d'envoyer la cassette?
Oui, en fait, comme...
Pour leur faire un petit pied de nez, là.
Oui, je me suis dit, s'il n'y avait jamais cette opportunité de re-auditionner, j'allais montrer au juge que
c'est
possible. Je ferais l'audition dans un couple. Mais il n'y avait pas... Malheureusement, So You Think You Can Dance Canada est fini. L'émission est finie, alors je ne me suis pas mis dans cette position encore pour... faire l'audition, mais peut-être dans les États-Unis, parce que...
Ça, c'est quelque chose qui vous plairait, d'aller aux États-Unis pour...
Peut-être, oui. Comme en ce moment où je suis dans ma vie, non, à cause du fait que je travaille beaucoup avec le projet RAD,
on va en parler après.
Avec mes jeunes et tout ça, que ça, c'est ma vraie passion en ce moment. Et je ne sais pas si je suis prêt à m'enlever
de ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui comptent sur vous.
Ah, oui, moi je compte sur eux aussi.
ils ont besoin de vous, ils ont envie, vous êtes là, vous êtes leur mentor, vous leur donnez beaucoup. Et c'est ça, j'imagine que faire un concours aux États-Unis, ça enlèverait ça.
Ça enlève l'attention et aussi ça enlève ma direction où moi je veux me placer dans ma vie en ce moment. Parce que c'est sûr, je veux continuer à créer dans la danse. Et quand tu es dans ce milieu commercial, tu n'as pas beaucoup de contrôle. Dans le sens, oui, les gens te laissent faire des choses, mais en même temps, tu dois aller tu es un peu contrôlé par la production de tout. Alors,
ça va vite.
Ouais.
Alors, on fait une petite pause, on revient après.
OK.
Justement, ça fait beaucoup. Il y a la troupe, il y a l'école, il y a les conférences.
Oui.
Tout ça en même temps.
Et les marchandises.
Oui, exactement. Alors, on va y aller avec Hilabrities Troupe, qui a été fondée en 2007.
Oui.
Alors, en fin de compte, comment ça fonctionne?
Alors, Hilabrities, c'est une équipe internationale de danseurs handicapés. On est 5 danseurs, tous à très haut niveau. On fait des conférences ensemble, on fait des spectacles de théâtre et on fait des compétitions ensemble.
Spectacles de théâtre aussi?
Oui, on a une pièce de théâtre de 30 minutes Et on a fait une tournée en Angleterre. En fait, quand on se parlait, quand j'étais en Angleterre.
Ah, c'était ça.
C'était ça.
C'est ça.
Ouais. Et avec eux, c'est plus un crew, dans le sens qu'on est des amis, qu'on est venus ensemble. Et ça est devenu une compagnie de danse. Mais ça reste toujours un crew, dans le sens qu'on est des amis. Alors, il n'y a pas vraiment une opportunité pour des nouveaux danseurs à rentrer. Comme il n'y a pas des auditions, il y a pas, c'est vraiment juste des amis qui sont venus ensemble qui a créé ça.
Et le théâtre, il est venu comment? Parce que au début c'était juste des danseurs, mais qui a décidé entre vous? Vous avez dit bon, on va faire des pièces de théâtre. Comment? Qui a décidé?
En fait, comme moi, j'avais ramené les gars en 2011 à Montréal et j'ai dit on doit créer un spectacle de théâtre, comme ça on peut le vendre dans les festivals et on peut avoir des opportunités, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous appelait, mais on n'avait pas un spectacle à donner. On avait juste la chance de faire des solos de 5 minutes où chaque danseur dansait juste comme ça, mais sans une histoire. Et j'ai amené les gars à Montréal pour un mois, 30 jours. Et dans les 30 jours, on a fait 25 spectacles dans des écoles, des conférences, pour essayer de gagner l'argent, de payer le loyer, les billets d'avion et tout ça. Et dans ces 30 jours, après les spectacles dans les écoles, on retournait à la maison pour créer le spectacle. Et on avait créé un spectacle de 20 minutes et maintenant on l'a grandi jusqu'à 30 minutes. Et on fait des tournées un peu partout du monde. Ce mercredi, je pars pour l'Autriche où on va montrer notre spectacle pour un festival de danse hip-hop en Autriche. Et durant le mois de mai et juin, on a fait une tournée de 22 villes dans l'Angleterre et l'Écosse. Alors, ça commence à bouger avec
ça bouge quand, bien. Quand vous dites conférence, ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'on voit le spectacle, on fait la conférence après, et qu'est-ce qui se dit et comment ça fonctionne?
En fait, une conférence est différent que la pièce de théâtre, parce que la pièce de théâtre est vraiment basée dans les théâtres. Dans les théâtres. Où les conférences, ça peut prendre lieu dans des écoles, dans des salles de conférences. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des solos, on fait des freestyles, et où on danse, on montre qu'est-ce qu'on peut faire. Mais après, chaque danseur partage leur histoire. Wow. Tout revient au message, pas d'excuses, pas de limites.
Voilà, c'est ça qui est vraiment votre logo. Ouais, c'est notre mantra. Il y a des t-shirts, il y a des mantras, il y a des casquettes, il y a
exactement.
Tout.
Okay. Mais alors, chaque danseur dans Illabilities a leur propre message aussi. Mais ça revient à... Pas d'excuses, pas de limites.
C'est vrai, ils ont leur propre message. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Oui, en fait, par exemple, Tommy, il est une danseur qui a eu le cancer dans sa jambe. Et à 18 ans, il a dû amputer sa jambe. Alors lui, son motto, c'est de l'adaptation et dire toujours qu'il est unstoppable, comme il n'y a rien qui peut lui arrêter. Le danseur Cujo, qui est complètement sourd, lui, pour toute sa vie jusqu'à présentement, il a caché le fait qu'il ne pouvait pas entendre. Il a caché le fait qu'il était sourd. Alors, il a toujours trouvé une façon de s'adapter. Mais maintenant, son message...
Donc il était dans le déni un peu? C'est-à-dire qu'il ne voulait pas montrer qu'il l'était?
Exactement. Et maintenant, il a dit que son message, c'est de put yourself out there and share. Mm-hmm. Alors, si tu as un défi...
Se montrer en avant et partager ça.
Exactement. Ouais, ouais. Alors, de ne pas être ashamed.
Avoir honte.
Oui, de ne pas avoir honte de ça. Et alors,
mais lui, il vient de sortir de ça, finalement, si je comprends bien.
Ça fait seulement 7 ans. Ça fait... Ouais.
C'est incroyable. Hein?
Oui, exactement. Alors, chaque danseur, ils ont tous... un message séparé, mais encore, ça revient au message global. Pas d'excuses, pas de limites.
Pas d'excuses, pas de limites. Est-ce que quand vous rencontrez les gens, les jeunes et les moins jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent après avoir vu la danse, la conférence? Est-ce que vous sentez que vous changez un peu leur vie, leur perception des choses?
Je pense que oui. Pas tout le monde, c'est sûr, mais on reçoit toujours un bon... énergie du monde après chaque spectacle, on reçoit des messages de certaines personnes qui disent « J'ai vu votre spectacle, ça, ça m'a donné la confiance à croire en moi-même. Mm. Ou maintenant, l'autre jour, j'ai reçu une lettre personnelle. En fait, il y avait une personne qui a vu mon spectacle. Il était trop gêné à venir me parler, mais il m'a passé une note. Mm-hmm. Comme ça, et j'ai lu la note, et il m'avait dit dans la note que il a toujours, pour lui, son frère, c'est la personne plus importante dans sa vie. Mais ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas vu son frère parce qu'il habite loin. Il a toujours utilisé le fait qu'il habite loin comme une excuse pour ne pas lui voir. Mm-hmm. Et il a dit, après voir mon spectacle, il va acheter son billet d'avion pour aller voir son frère. Et c'est des petites choses comme ça que c'est cool parce que ça peut vraiment aider à changer la motivation de la personne, tu sais. Ouais. Et je trouve que, moi personnellement, je trouve que dans la vie, c'est sûr, on a tous des moments difficiles dans la vie. Mm. Et on réagit tous différemment dans des situations. Mais je trouve que si on prend les choses moins sérieux, un peu plus comme on regarde vraiment dans everything around us, mm-hmm. on peut regarder toutes les choses négatives et trouver une positive avec ça. Je sais pas si je m'explique bien.
On comprend tout à fait. Lucas, est-ce que vous avez eu, vous, des moments comme ça de découragement et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez découragé? S'il y en a eu, est-ce qu'il y a... Il y a des jours où bon, vous levez le matin et dire « Ah non
!» Absolument. Même aujourd'hui, tu sais, pas aujourd'hui même, mais il y a des moments, tu sais, que je me lève et je me demande si qu'est-ce que je fais, c'est la bonne chose. Je me lève, peut-être je n'aime plus qu'est-ce que je fais, mais c'est juste un moment temporaire. Tu sais, comme c'est des moments où je me dis « Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je dois prendre une job normale, je ne sais pas, tu sais, comme je me demande toutes ces questions tous les jours quasiment.
Et de doute.
Oui, il y a toujours un peu de doute et j'ai peur. J'ai une peur dans moi, dans le sens, si je me blesse, qu'est-ce que je vais faire pour les prochains mois, tu sais. Il y a toute cette chose qui se passe dans ma tête tous les jours, mais en même temps, on ne peut pas oublier qu'est-ce qu'on adore.
Ouais.
Et à la fin de la journée, si on met d'énergie positive dans les choses qu'on aime, ça va fonctionner. Et je crois beaucoup en ça.
Et est-ce que au niveau de la santé, au niveau de... Est-ce que maintenant, tout est correct? Est-ce que ça ressemble à quoi votre vie? Est-ce que vous devez prendre des tonnes de médicaments? Est-ce que c'est une fois tous les mois chez le médecin? Est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes... encombré par encore des suivis médicaux, ou ça va?
En ce moment, quand je suis déménagé à Montréal, je n'ai pas vu une docteur.
C'est bien, ça fait longtemps, ça.
Oh, j'attends toujours pour le rendez-vous.
C'est dans ce sens-là. Oui, ah, ben alors, c'est moins bien.
Mais...
Je pensais que vous ne l'avez pas vu parce que c'était correct. Non. Mais là, vous dites, vous êtes sur une liste d'attente. Bon.
Une grande liste.
Ouais.
Je fais beaucoup de massothérapie, je fais beaucoup de self-therapy, comme la thérapie pour moi-même. Alors, je fais du bicyclette, je fais la natation. C'est sûr que avec ma vie, je n'ai pas une horaire structurée.
Mm-hmm.
Alors ça, ce n'est pas trop bon, dans le sens qu'il y a un mois qui peut-être je peux être très, très fit et bon dans la santé le mois prochain. Je suis en pleine tournée, alors je suis fatigué, alors je décide pas de faire des exercices et tout ça. Une chose que les docteurs m'ont dit, en grandissant, je serais garanti d'avoir l'arthrite dans toutes mes jointures à cause de ma condition.
Okay.
Et en fait, j'ai rencontré un docteur parce qu'il y a une conférence annuelle pour l'arthropose et il y a un docteur qui fait des suivis avec les adultes là-bas, et le docteur me regarde, il dit, alors est-ce que tu as l'arthrite encore? Est-ce que tu as reçu l'arthrite? Et présentement, je n'ai pas trop d'arthrite. C'est qu'est-ce que je note en grandissant. Et je pense que c'est aussi à cause de ma vie athlétique. C'est que maintenant, j'ai 30 ans. Alors, le temps de recovery, le temps de
récupération
est un peu plus long.
Okay.
Et si je ne danse pas tous les jours ou si je ne bouge pas tous les jours, après une semaine de ne pas bouger, ça prend beaucoup plus de temps de me remettre,
revenir
okay. en forme. Ou avant, quand j'avais 25 ans ou 20 ans, je pouvais rentrer, sortir, pas de problème. Comme le corps bougeait mm-hmm. très bien. Maintenant, mes articulations sont un peu...
Ça prend plus de temps. Quoi.
Oui, exactement.
Mais ça, c'est un peu tout le monde, là.
Je pense que oui. C'est un... ouais.
Malheureusement, hein.
Ouais, exact.
On aimait bien sortir le soir et puis dormir quelques heures, puis wouh!
Exactement, oui.
Revenir en pleine force.
Ouais, exact.
Là, c'est un petit peu comme tout le monde. Alors, on fait une petite pause et on revient avec ceux qui vous ont inspiré dans votre vie.
Parfait. Merci.
Alors, on arrive à la fin de l'émission et toujours intéressant la finale parce que c'est là que vous nous dévoilez un petit peu vos adresses ou les gens qui vous ont passionné. Lucas, quelles ont été les personnes qui vous ont inspiré, vos mentors, non, connus ou pas connus?
Alors, mes mentors directs, je veux dire, c'est mes deux parents plus mon frère Stefano. C'est des personnes dans ma vie que... Ils m'ont toujours encouragé, ils sont toujours là pour moi. En fait, comme chaque fois que je reçois une bonne nouvelle, c'est eux les premiers que j'appelle. Comme eux, maintenant c'est Melissa, ma femme, mais c'est toujours ensemble. Tu sais, c'est très serré. Oui, c'est très, très serré. Uh-huh. Je dirais que des menteurs plus commercial. Je dirais Bart Simpson, c'était en
oui,
grandissant.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais non, mais c'est
vrai. C'est vrai, j'ai toujours...
Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Ça m'a fait rire tout à l'heure quand vous avez dit ça, puis là, vous revenez avec. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui, ça?
J'aime son personnalité dans le sens que lui aussi, il est une personne familiale. Dans le sens que tu le vois, qu'il fait des choses qui... It's always borderline, tu sais, comme... dans le sens, c'est...
Mais acceptable quand même.
Exactement, c'est acceptable. C'est mischievous, but positive mischievism. Mm-hmm. Alors, c'est jamais contre une personne ou contre une chose qui peut blesser, faire du mal. Tu sais, c'est toujours... Il prend des risques. Et ça, c'est qu'est-ce que j'aime. C'est des personnes qui prennent des risques pour s'améliorer ou pour essayer. Parce que tu ne sais jamais. So you take risks, you know. Ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé de Bart Simpson.
Donc, il vous inspire, quoi.
Oui, exactement. Ouais. C'est sûr que musicalement et en danse, Michael Jackson, James Brown, Ray Charles, ça, c'est tous des personnages qui, en grandissant, c'est des personnes que j'ai beaucoup admirées. En fait, ils sont tous des artistes qui ont des parcours incroyables.
Mm-hmm.
Alors,
est-ce que je peux vous demander pourquoi ceux-là?
Je trouve que...
C'est Michael Jackson par
Oh, Michael Jackson, comme il a commencé très, 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 très jeune. Et dès quand il était jeune, il n'a jamais, jamais eu une enfance, tu sais, et une vraie enfance. Mais il a toujours donné son corps. Et he always gave 100%.
Est-ce que vous l'admirez pour sa chanson ou le côté danseur extraordinaire qu'il est, ou les deux?
L'artiste dans lui. Okay. J'ai vu beaucoup des documentaires sur lui, et quand tu le vois, il sait qu'est-ce qu'il veut, il a pas peur de dire do it again, oh it's gotta be stronger, tu sais, comme
perfectionniste.
Il est perfectionniste, ouais. Que c'est bon et c'est mauvais des fois. mais c'est bon dans le sens parce que tu vois toutes les choses qu'il a jamais sorties, comme everything that he's ever put out. C'est toujours parfait.
Les livres qui vous ont inspiré ou que vous recommandez?
Des livres, honnêtement, je dois être honnête, je suis un peu nul quand ça vient avec du lire. Mais dernièrement, qu'est-ce que je fais? J'achète un livre avec tous les voyages que je prends et je lis comme 10 pages à la fois. Alors, okay. Ça prend comme un an du temps que je finis un livre, normalement.
Alors, ça se situe plutôt dans le voyage.
Oui, c'est toujours dans le voyage, mais il y a le author qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui fait des livres, ça s'appelle The Tipping Point, David and Goliath. C'est tous des livres, c'est un mélange de business et théorie. Et comment des choses de tous les jours peuvent se relier au business. Et ça, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Alors.
En terminant, vos villes préférées?
Villes préférées, honnêtement, je ne dis pas ça parce que j'habite à Montréal, mais je trouve que Montréal est une des plus belles villes à cause du mélange des cultures, parce que tu as un peu de Nord-Amérique et un peu d'Europe, tout mélangé ensemble. Mm-hmm. C'est sûr que Barcelone, c'est une ville très similaire à Montréal aussi, mais il y a plus de nature. Tu as les montagnes, tu as la plage, tout ça, ça c'est très, très beau.
Comme ça, Barcelone, oui.
Oui, okay. Et j'adore San Francisco et Vancouver aussi.
Merci, Luca Patuelli. Merci infiniment. Vous suivez sur, sur Internet aussi, parce que vous êtes Facebook également. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, à la réalisation de l'émission. Christiane Campagna était la recherchiste de l'émission. C'est Sophie Stanquet. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye. Merci à Yannick Roberge.
Bonne journée.
Bye.